À notre tour de vous dire bonsoir, on est ravis évidemment de vous voir aussi nombreux. Je suis ravi que la grande maison Mola qui réunit autant de monde et fait confiance une fois de plus à Sud-Ouest pour animer cette rencontre. Je suis Stéphane Vecchiani, donc journaliste à Sud-Ouest, et je ne vous présente pas notre invité qu'on avait déjà eu il y a quelques années ici. Sylvain, bonsoir.
Bonsoir.
On vous avait eu, c'était quasiment un anniversaire, le 14 décembre 2017, j'ai fait appel à mes notes puisqu'on était venu ici avec les jeunes étudiants de Sciences Po Bordeaux. Et vous le savez, Sciences Po Bordeaux et Sud-Ouest, c'est une longue histoire, presque d'amour, en tout cas de relations. Et on fait régulièrement des rencontres. D'ailleurs, on vous donne rendez-vous pour ceux qui s'intéressent aussi à la politique. On fera un entre-deux-tours à Sciences Po Bordeaux avec Sud-Ouest. À l'époque, Sylvain, on était venu ici parler de motocyclettes, de déplacements, de vitesse. Ça sentait l'huile de ricin, la graisse de phoque, les bielles anglaises et les motos anciennes, et surtout les Royal Enfield d'Atlée, puisque vous parliez de motocyclettes. Et votre livre à l'époque, que certains ici ont sûrement lu et adoré, c'était « En avant, calme et fou ». J'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 ans? Êtes-vous à l'arrêt? Êtes-vous plus calme et plus du tout fou?
Écoutez, si je suis très honnête avec vous, je ne crois pas qu'on puisse associer ce que j'ai vécu sur le plateau tibétain, c'est-à-dire l'affût animalier avec un photographe qui m'a emmené me dissimuler dans les pierriers de montagne et attendre pendant des heures qu'un animal passe sans être sûr de sa venue. Je ne crois pas qu'on puisse associer ce nouvel usage du monde à l'antipode, à l'exact contraire de ce que vous évoquez préalablement, c'est-à-dire la vie de mouvement, la vie d'aventure. L'un n'est pas le contraire de l'autre. Évidemment, on aime bien ça, on aime bien se dire que tout n'est qu'une dialectique, que tout n'est qu'une tension, parce que c'est commode. Je suis pas en train de dire que c'est une pensée de journaliste, parce que d'abord j'ai beaucoup de respect pour la pensée de journaliste. D'abord, c'est la mienne.
Merci
aussi.
De le préciser.
C'est la mienne aussi, finalement, et j'ai souvent recours à ça, la dialectique des contraires, ouais. Est souvent une facilité, un stratagème qui permet d'expliquer les choses. C'est amusant de se dire que nous sommes tiraillés par des contraires et que notre énergie personnelle provient de la conjonction de ces contraires. C'est d'ailleurs la vieille idée d'Héraclite, qui, dans un de ses fragments, écrit que le nom de l'arc est la vie, et que son œuvre est la mort. Et si Héraclite se sert de la notion et de la symbolique de l'arc pour désigner la vie, c'est qu'il veut signifier qu'en tendant l'arc, on va rapprocher ces deux extrémités. C'est donc l'allégorie du rapprochement des contraires. Et grâce à ce rapprochement des contraires, on va décocher une flèche qui va aller vers la mort et on va créer une énergie. Tout ça pour dire que depuis très longtemps, on a envie toujours de penser que nous sommes le résultat de tiraillements tout à fait antipodiques. Alors là, évidemment, le type qui va rester pendant des heures dans une grotte assis en essayant de voir une panthère qui n'apparaît jamais semble assez différent de l'espèce de vagabond agité couvert d'huile de ricin et de cambouis, comme vous sembliez le signifier. Alors, non, pour répondre précisément à votre question, après ce long préambule disant que je ne pouvais pas y répondre, eh bien, je tiens à penser, mais c'est très, très profond chez moi, qu'il n'y a pas d'antinomie entre l'art de l'affût et l'art du mouvement. C'était Kessel qui, dans les Dames de Californie, expliquait que, très jeune, il avait 20 ans, il allait vers San Francisco pour gagner ensuite en bateau Vladivostok et combattre avec la Légion tchèque contre les troupes bolcheviques après la guerre de 14-18. Et Kessel disait, dans le train qui l'amenait vers San Francisco, je ne réussirai jamais à résoudre l'équation de ma vie entre l'arrêt et le mouvement. Alors là, voilà l'antinomie que l'on sent, mais qui, à mon avis, n'a pas de sens. L'affût animalier et la marche à pied ou la motocyclette, dans les deux cas, il y a plus de similitudes que de différences. Dans les deux cas, c'est une allégeance qui est faite au temps qui passe lentement. C'est une allégeance qui est faite à l'espace, l'espace dans lequel on progresse avec difficulté en conquérant chaque mètre que l'on fait. C'est une allégeance qui est faite avec le réel, que l'on soit à pied dans la forêt en train d'avancer ou que l'on soit dans la grotte en train de regarder. Dans les deux cas, on préfère le réel au virtuel, on préfère l'immédiat aux promesses. on préfère la beauté du réel et du tangible à toutes les illusions et les abstractions de l'avenir. Voilà. Donc tout ça pour dire que non, il n'y a pas de, je n'ai pas changé. Au contraire, je crois simplement que j'ai usé du monde, comme dirait Nicolas Bouvier. J'ai fait un usage du monde, mais avec un autre outil, celui de l'immobilité au lieu de celui de la versatilité un peu frénétique.
Alors, on a bien compris. En fait, c'est quand même le fruit d'une expérience que vous nous dites aujourd'hui. Vous êtes en train de revenir d'une très belle aventure que tout le monde a lue, puisqu'on est tous là, que je le rappelle, c'est justement un best-seller. On en parlera tout à l'heure de ce succès d'édition. Il n'empêche qu'avant d'y aller, vous n'aviez pas tous ces éléments de réflexion. Comment Vincent Munier vous a décidé à aller vous installer et vous allonger des journées entières? Qu'est-ce qu'il vous a dit pour vous décider, alors qu'on a tous lu Bérézina et que vous êtes toujours poussé par le mouvement et vous avez fait des eaux de mouvement permanent dans vos ouvrages?
Oui, mais encore une fois,
il
voyait bien dans mes livres qu'il y avait quelque chose qui me conduisait, même si j'usais du mouvement et du défilement des kilomètres pour avancer. Il voyait bien que la seule chose qui m'intéressait, c'était d'offrir mon regard et mon observation au monde. Alors, un jour, il m'a proposé de venir le rejoindre au Tibet. Mais comme il n'était pas tout à fait sûr, parce qu'il n'est pas fou quand même, que je réussirais à rester tranquille pendant des heures dans un affût, il m'a proposé de commencer, de faire une sorte de répétition générale dans une forêt de la Moselle.
Tout à fait.
Ce qui était tout de même moins exotique, en allant voir des blaireaux.
Des blaireaux.
Alors après, naturellement, ensuite, évidemment, j'avais l'impression qu'il me proposait ensuite quelque chose qui était bien plus spectaculaire. Parce qu'entre une panthère sur les places dans la haute vallée du Mékong, au milieu du Tibet, et puis les bords de la Moselle avec des blaireaux, on a l'impression que, évidemment, on change de degré dans le médiatique, dans le spectaculaire et dans l'exotique. Cela dit, entre parenthèses, je ne sais pas s'il faut que je le précise, parce que c'est comme ça que je commence ce récit. Le blaireau avait pour moi une dimension très importante, parce qu'il se trouve que c'est mon nom veut dire le blaireau. Voilà, Tesson veut dire le blaireau. Je pense que ceux qui font du latin ici ou qui s'intéressent à l'étymologie le savent. Les mots de taxinomie et de taxidermie viennent de la racine taxos, le blaireau, qui est encore utilisé d'ailleurs en vieux français. Le tesson, ça veut dire le blaireau dans certains territoires de l'ouest de la France, d'ailleurs. Et voilà, moi, j'aimais ces bêtes-là, parce qu'elles sont amusantes, elles sont curieuses, on les aime pas, elles sont en général assez persécutées, elles vivent la nuit, elles fouinent, et les fiches zoologiques m'ont appris qu'elles étaient monogames et sédentaires, ce à quoi, évidemment, je ne me suis pas tellement conformé dans ma vie.
Merci de cette confidence. Par rapport à justement à cette immobilité qui ne l'est pas vraiment, parce que ceux qui ont lu le livre ont vu que vous vous déplaciez quand même, il y a quand même des longs moments d'immobilisme, vous l'avez malheureusement connu et subi. Là, c'était un choix, c'est un moment choisi. Qu'est-ce qui fait dans votre esprit, dans votre vagabondage, dans vos notes, qu'on n'écrit pas les mêmes choses, qu'on est cloué sur le lit d'hôpital après votre triste chute et qu'on est immobile de force et qu'on choisit d'être immobile 6 ou 7 heures dans le froid?
La réponse est dans votre question. C'est évident que ce qui est voulu, ce qui est décidé, n'a pas la même valeur que ce qui est imposé par les aléas du sort. Moi, la relativement longue immobilité après une chute qui m'a cloué pendant un peu plus de 4 mois dans un lit d'hôpital était évidemment un très mauvais passage. Je ne l'avais absolument pas voulu, je ne l'avais pas décidé. C'était quelque chose qui m'était imposé, mais j'ai quand même éprouvé des choses assez similaires que lors de l'affût que j'ai pu faire avec Munier et qui, celui-là, était tout à fait voulu, tout à fait décidé, et qui était très gracieux et qui était une expérience que je vivais et que j'étais très content de vivre. La similitude, c'est que dans les deux cas, vous ne pouvez plus demander à votre agitation physique de vous aider à faire en sorte que le temps passe. C'est-à-dire que l'immobilité détermine un impératif de plonger en soi. Voilà. C'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'il y a un lien entre la pratique spirituelle qu'on appelle la prière et puis tout d'un coup l'agenouillement, quoi, enfin l'immobilité, le statisme. Alors ça, je l'ai remarqué. Mais évidemment, il y a la comparaison et la similitude, l'analogie s'arrête là, parce que pour le reste, l'affût, on est dans la vie, on est dans la joie, on est dans la force, on est dans tout ce vitalisme extraordinaire du spectacle de la nature, alors que sur un lit d'hôpital, on fait une seule chose, c'est d'essayer de sortir de l'heure précédente pour essayer de gagner l'heure suivante. Et ça n'est que comme ça que le temps passe.
Est-ce que l'esprit vagabonde d'autant plus qu'on est immobile? Et est-ce qu'aujourd'hui, puisque vous pouvez comparer justement ces grandes journées où vous étiez déjà passé, peut-être pas exactement au même endroit, mais à vélo ou sur d'autres épopées, quand vous avez fait et du bateau ou de la moto, et à un moment, j'y reviendrai, vous avez des citations sur le fait que vous avez appris à regarder. Est-ce que l'esprit vagabonde plus qu'on s'immobilise?
Non, il vagabonde différemment. Il vagabonde différemment. C'est-à-dire que le défilement vous apporte un perpétuel jaillissement d'imprévus et de nouveautés et de variétés et de diversité. C'est pour ça qu'on avance. C'est pour ça qu'on aime aller sur la route. C'est pour ça que les motards sont là sur leur moto, sur la route, et qu'ils avancent. C'est pour ça qu'on part marcher, pour qu'on part grimper, qu'on part demander à la moisson que l'on fait de kilomètres de vous pourvoir son lot de variétés et de changements. Alors, c'est une pensée qui est plus bagnodante, en caracole. C'est une pensée qui musarde. C'est une pensée qui flâne. La pensée immobile est une pensée beaucoup plus spiralée. C'est une pensée qui fort, comme une foreuse. On descend davantage en soi. Et d'ailleurs, je me suis aperçu que pour la première fois de ma vie, je m'étais laissé aller à des considérations que je n'appellerai jamais des méditations parce que j'ai passé toute recuidance, mais des considérations, des remarques plus spirituelles, plus sacrées. Je crois que ça tient à deux raisons. La première, c'est que d'abord, l'endroit s'appelle le Tibet, qui est une haute terre de spiritualité très bizarre, avec des combats, des grands combats de grands mouvements spirituels qui se sont heurtés sur le plateau tibétain, le chamanisme, le bouddhisme tantrique et le taoïsme. Deuxièmement, nous sommes là dans un paysage qui incite à la contemplation très spirituelle. C'est le paysage de la rareté et de la clarté. Et quand vous êtes dans des paysages où l'air est raréfié et où l'horizon est éclatant et où le ciel est blanc et l'univers tout à fait désertique et qu'il oscille entre le sublime et le lugubre, il est évident que vous n'êtes pas distrait, vous êtes plutôt écrasé, quoi. C'est la différence que certains philosophes faisaient entre ce qui est beau et ce qui est sublime, ce qui vous écrase et ce qui vous enchante. Et puis la troisième raison pour laquelle je crois que on tire davantage vers des considérations d'ordre spirituel, c'est la réponse à votre question, c'est qu'on est immobile. On est immobile, donc on n'a pas le choix. Vient un moment où soit vous devenez fou, soit vous commencez à faire de l'espace très restreint que vous voyez un champ d'inspiration pour creuser des sujets qui sont en vous, ou notamment le sujet de la vie, du vivant et de son unité.
Alors justement, le vivant, vous l'avez observé, vous êtes très discret dans l'ouvrage pour pas justement, et je crois que Lunier est très vigilant aussi comme vous là-dessus, pour pas qu'on puisse identifier exactement les endroits où vous étiez, mais on apprend assez quand même pour savoir qu'on était en milieu, on va dire hostile pour le commun des mortels, et pourtant vous y avez vécu, vous avez raconté ce froid, raconté ces moments forts avec beaucoup de passion. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez toujours cette attirance, et pourtant c'est pas les mêmes choses que de traverser, qu'est-ce qui fait que vous avez toujours envie de vous immerger dans ces moments-là pour nous transmettre ces textes? Parce que à chaque fois que vous avez presque, vous êtes excusé presque, dire vous, il portait des charges lourdes, moi je peux plus le faire, donc j'avais mon carnet, je prenais des notes. Vous avez même dit à un moment, je suis au moins là pour les bons mots, les aphorismes, on vous fait confiance pour les aphorismes, on les a tous lus. Qu'est-ce qui fait que vous avez encore ce désir justement d'aller vers ça et de découvrir cette nouvelle culture, ce nouveau paysage?
D'abord, deux choses. La première, c'est que j'ai un goût pour cette partie du monde. Ce que les géographes appelaient autrefois la Haute Asie, c'est-à-dire le cœur du réacteur eurasiatique, ces grands systèmes de montagnes qui, grosso modo, vont du Pamir afghan à l'ouest jusqu'au contrefort oriental du Tibet à l'ouest, et des monts Sayan au nord, qui font la jonction entre la steppe de Mongolie et la taïga sibérienne, et l'Himalaya au sud. C'est pas mal quand même, ça fait un quart de l'Eurasie, et c'est les montagnes les plus puissantes du monde qui s'élèvent à 8000 mètres d'altitude et qui après se couchent en des plateaux de temps en temps où, où une bosse fait une convulsion pour finir par se perdre dans les sables du désert de Taklamakan au nord. Alors ça, c'est mon, c'est le pays que j'aime. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens qui aiment la Normandie. Moi, j'aime le Tibet. Il y a des gens qui aiment les aubergines. Moi, j'aime la viande de yak séchée. Ça s'appelle des goûts et des couleurs. Je ne peux pas vous donner une réponse, et puis elle ne sera pas intéressante. Finalement, il n'y a rien de plus ordinaire que de s'apercevoir qu'on aime des choses plutôt que d'autres. Et puis la deuxième élément de réponse à votre question, c'est que moi j'ai besoin de vivre des expériences comme celles que vous venez d'évoquer, parce que c'est mon matériel d'inspiration, c'est même mon matériau. Moi j'aime écrire, j'aime transformer la sensation, l'expérience, l'émotion, parfois la réflexion, mais enfin c'est un bien grand mot pour ce que je peux produire, mais enfin en tout cas la considération, en mots. J'aime ça, je trouve que c'est de l'alchimie. C'est de l'alchimie quasi médiévale. Les types prenaient du plomb, ils faisaient des formules magiques et ça devenait de l'or. Enfin, moi, je ne dis pas que je suis en train de faire de l'or, mais je dis simplement que je transforme le matériau. Il y a un processus de métamorphose qu'on pourrait qualifier d'alchimique. Quoi. Moi, quand je lis les récits de Fulcanelli, l'alchimiste gothique et néo-gothique, je m'amuse à penser que l'écriture procède d'une forme d'alchimie. Sauf que quand vous faites une alchimie, vous avez besoin d'un matériau de départ. Et mon matériau de départ, ça n'est pas l'imagination. Moi, je n'ai pas d'imagination, je n'ai pas d'invention. J'aime Pascal dans Les Pensées, qui dit qu'il se méfie de l'imagination parce que c'est une guerre ouverte au réel qui est là, qui est devant nous et qui ne demande que notre considération, notre amour, notre vénération, notre dévotion. Notre capacité aussi de le conserver. Peut-être ne sommes-nous pas assez conservateurs. Ça, c'est possible.
On va y revenir.
Mais enfin, il y a le réel qui est là. Moi, je l'aime. J'aime le décrire. J'aime décrire ce qu'il m'inspire. Et pour ça, j'ai besoin de vivre des expériences. Donc, quand Meunier me dit « Viens avec moi, je vais voir des panthères au Tibet », il faudra vraiment être fou pour dire « Non, je préfère continuer à créer mes petits romans policiers intérieurs. » Ben non. En plus, moi, je n'ai strictement aucune capacité d'imagination.
C'est d'une modestie totale, parce que forcément, qu'avec le public que vous avez ce soir et le public, parce que vous dites que c'est pas de l'alchimie, mais je pense que Gallimard est en train de faire de l'or quand même avec des sons. Donc, il y a quand même un moment où il y a un public qui vous rencontre. Ça veut dire quand même que l'observateur que vous êtes à un moment, il ramène quelque chose avec une imagination, et je suis désolé de vous le dire, vous, parce que vous ne l'acceptez pas en modestie, mais dantesque, pour transformer ce moment d'immobilité, où, j'ai envie de dire, où il ne se passe rien, et vous nous faites vibrer. Donc il y a quand même un moment où vous prenez des notes, et vous écrivez, et vous le racontez dans le roman. C'est votre plaisir quand même d'aller chercher justement cette matière et de la collecter.
Oui, bien sûr. Oui, ben on est
donc l'imagination, le moment où vous écrivez le bon mot, la phrase qui non, jaillit, ça, je sais pas.
Non, mais là on n'est pas d'accord sur la définition du mot.
De l'imagination et de la création.
Oui, c'est pas de l'imagination. L'imagination, c'est la capacité de créer quelque chose à partir de rien, alors que moi, je ne fais qu'être le greffier, comme au tribunal, quand on fait le greffe de la de la plaidoirie. Moi, je suis le greffier de ce que je vois. Je vois un papillon, je vois une panthère, je vois Meunier qui n'a pas dit un mot depuis 37 heures. Eh bien, je le note.
Et ça, ça a dû vous barber quand même. Hein.
Non, mais c'était difficile parce que c'est évidemment une expérience du vide, comme vous l'avez signalé. C'est une expérience du néant. Mais ça, ces mots que nous employons en disant le vide, l'ennui et le néant, c'est la face noire, c'est la face nord, c'est la face ombreuse de quelque chose qui peut s'appeler l'espérance, la patience, l'attention, la mise de son âme aux aguets, mettre son âme en haleine, comme disait l'autre, qui était bordelais et qui faisait ses essais. Alors c'était une très belle expression qu'il avait quand il partait en voyage sur son cheval. Montaigne disait qu'il se plaisait à mettre son âme en haleine. Tout ça, c'est finalement la description. C'est la moisson, c'est la vendange positive, positive et bénéfique, l'espérance, la patience, l'attention, les aguets, l'émerveillement, de ce qu'on pourrait penser être des modalités négatives, c'est-à-dire le vide, la rareté, l'absence et le silence. Et elle est là, l'alchimie. Comment faire quelque chose qui vous grandit avec quelque chose qui pourrait vous désespérer? Parce qu'il y a quelque chose de très désespérant dans ces paysages, quand même. Vous êtes dans des paysages dont finalement la seule consolation est qu'il n'y ait même pas d'arbres pour se pendre.
J'ai un aphorisme que vous allez reconnaître, c'est « calme plat en montagne ».
Oui.
Vous connaissez l'auteur.
Oui, c'est pas mal, ça.
C'est
de vous, ça.
Non, c'est de vous. Dans...
Ah bon.
Je ne vais pas
ah bon
le citer.
Mais ah bon.
C'est...
Mais... Non, pardon, mais voilà. C'est... Oui, bah voilà, donc, oui, voilà. Bah voilà, calme plat en montagne, enfin, c'est...
Est-ce que c'est, quand vous dites « il faudrait être fou pour ne pas y aller », etc., est-ce qu'il n'y a pas une forme de fuite, Sylvain Tesson, dans de dire « je vais aller là-bas, parce qu'au moins, pendant que je serai là-bas, je ne verrai pas le monde ». À un moment, vous dites « le monde des animaux, c'est l'ordre ». Donc, par opposition, j'ai envie de lire, le journaliste que je suis, c'est le désordre, alors, le reste que vous vivez quand vous êtes à Paris ou à Bordeaux ou...
Non, mais enfin, moi, vous et moi...
Sans parler
enfin,
de l'actualité. Hein,
non, mais je pourrais vous retourner le compliment, parce que vous êtes un être humain aussi, je vous signale, et l'être humain, c'est le désordre. C'est le désordre. Ça n'est pas du tout un jugement lapidaire que de dire ça. C'est presque une définition de l'espèce d'aventure biologique, de cette aventure humaine qui s'est passée à un moment donné dans l'histoire du vivant, où nous sommes sortis de ce qui conduit l'animal. L'animal est déterminé par son gène. Il est conduit par son instinct et il est enfermé dans son écosystème auquel il a été adapté. Et nous réussissons aujourd'hui à imaginer que nous allons peut-être intervenir sur le gène. Nous avons d'ailleurs déjà réussi à le modifier. Oui. Nous sommes libérés de notre instinct par l'usage de notre raison et de notre culture et de notre volonté, et nous sommes capables de nous adapter à tous les milieux. Donc, nous sommes sortis de l'animalité, et ça crée le meilleur comme le pire. Ça fait la chapelle Sixtine, et ça fait Stalingrad. Si vous voulez qu'on procède à la dialectique des contraires, on peut faire ça longtemps.
La ruine, pas dû m'engager sur cette voie.
Non, mais la ruine d'un côté, et puis la splendeur de l'autre. L'homme est capable de ça, mais ça s'appelle à la fois la grandeur et la servitude, mais ça s'appelle aussi le désordre. Donc moi, je me permets, quand je suis devant un spectacle comme celui d'animaux que l'on voit circuler sur les flancs d'une montagne au Tibet, d'avoir devant moi un spectacle que j'appelle le spectacle de l'ordre. Il ne me semble pas que c'est abusif que de dire ça.
Je peux revenir sur le terme de la fuite. Est-ce que c'est une façon pour vous de vous échapper? À un moment, vous écrivez « j'échappe toujours, j'évite, je m'éclipse ».
Oui. Oui, bah, c'est, oui, absolument. Je suis bien d'accord avec vous. Il y a une forme de le voyage est une fuite. Le voyage est une fuite. Et, j'aime. Il y avait une expression anglaise qui était associée à un terme à des considérations stratégiques, qui était la stratégie de l'escapisme. C'est quand une troupe refuse le combat et entraîne la troupe offensive un peu plus dans le territoire en lui échappant. Alors moi, j'ai beaucoup recours à l'escapisme, sauf que mon combat, je le mène avec moi-même, et je préfère fuir en permanence, ou peut-être m'échapper, plutôt que d'avoir à me confronter. Enfin, c'est quelque chose de très ordinaire. Qui parfois, ne choisit pas le contournement ou la fuite?
On est d'accord, mais pas sur des périodes aussi longues. Est-ce que Munier, à qui Le Point consacre un très beau portrait, d'ailleurs, ce photographe que vous avez accompagné, est-ce que Munier, que vous avez observé vivre, et vous avez parlé de son silence tout à l'heure, est-ce que c'est quelqu'un qui, justement, a choisi d'être en dehors de l'actualité du temps pour vivre ça, et est-ce que ça vous inspire, justement?
Bah oui, enfin, d'ailleurs, mon livre est plus un portrait de Munier qu'un portrait de la Panthère des Neiges. Oui.
Vous avez plus vu Munier que la Panthère des Neiges,
oui, ça, certainement, oui, je l'ai davantage vu. J'ai beaucoup côtoyé. Je suis retourné avec lui, d'ailleurs, il y a exactement 2 mois, le 15 octobre. Le 15 octobre de cette année, nous étions encore au Tibet. Mm-hmm. Nous étions encore au Tibet. Il y a 1 mois, exactement, avec lui, dans la haute vallée du Mékong, pour voir des panthères. Et nous avons rencontré des ours du Tibet. Vous me demandez maintenant si lui aussi est dans une forme de fuite. Oui, bien sûr. Bien sûr.
Pas tellement si lui est lié, mais est-ce que ça vous inspire encore plus et que ça vous fait envie, quoi?
Bah, c'est-à-dire que c'est agréable de rencontrer des semblables qui sont animés par une obsession totale qui a envahi leur vie et qui est de rencontrer des spectacles qui le mettent à la culmination de la représentation du beau et de l'esthétisme. Alors parfois on en rencontre chez des artistes ou chez des grands esthètes, ou chez des gens qui sont des spécialistes d'un art ou d'un artisanat d'art. Et lui, il a fait de la nature sauvage dans des territoires soit subarctiques, soit d'altitude, eh bien, il en a fait son musée. Et il va à la rencontre des pièces vivantes de ce musée. Il ne pense qu'à ça, il ne vit que pour ça. Et oui, je crois qu'il est évident que ça n'est pas véritablement Meunier, ni un tribun, ni un meneur d'équipe, ni quelqu'un qui aime se plonger dans la foule.
Quand on parlait tout à l'heure justement de s'échapper, de fuir, je voudrais revenir à une phrase que vous aviez prononcée sur une radio, c'était « La France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer », alors qu'on voit aujourd'hui qu'il y a un contexte particulier. Est-ce que vous faites partie de ces auteurs qui aujourd'hui prennent la parole sur ce qui se passe en France, ou est-ce que vous dites « c'est pas mon problème, en tout cas c'est mon problème personnel et je le commande pas », ou est-ce que vous avez un avis sur ce qui se passe aujourd'hui ?
Mais non, c'est-à-dire que le problème de votre question est très importante, parce que les temps ont changé, c'est-à-dire que cette espèce d'atmosphère dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui est une atmosphère de la communication permanente, puisque nous sommes même nous sommes plus que dans une société du spectacle, nous sommes dans le spectacle de la société du spectacle, et nous sommes même dans le commentaire de ce spectacle de la société du spectacle, dans le commentaire permanent. Et on a l'impression que la pensée étant tellement volatile, tellement désagrégée, tellement difficile à suivre, et les structures de pensée étant tellement difficilement exprimables, parce que l'attention ne permet pas la retenue, et il est très difficile de développer une pensée sur plus de 3 phrases, et qui chacune serait constituée de plus de 8 mots.
Ce soir, on a le temps.
Comment ?
Ce soir, on a le temps.
Oui, ce soir, on a le temps. C'est d'ailleurs pour ça que je le prends. Je suis d'ailleurs confus, mais excusez-moi. Mais c'est vrai que le fait d'avoir beaucoup voyagé dans le désert et d'avoir beaucoup parlé à mon cheval m'a habitué à ne pas être interrompu, ce qui m'a rendu très bavard. Mais je reviens.
Je propose que chez Molan, on fasse animer par le cheval de Tesson la prochaine fois.
Non, mais je reviens à cette idée que nous sommes, enfin, vous le savez, est-ce que je dis, tout le monde en a la perception, nous sommes, depuis cette mutation digitale qui s'appelle l'Internet, nous avons été, au fond, sommés de nous exprimer à tout moment et d'être requis pour tout dire sur tout. Et tout discours valant tout autre discours, eh bien, à ce moment-là, plus personne ne se gêne pour donner son avis. Puisque le grand objectif de la révolution digitale, c'est d'aplanir toute idée qu'il puisse y avoir une hiérarchie entre quoi que ce soit. Ça s'appelle la civilisation du tube, du tuyau. Dans le tuyau, peu importe ce qui passe dans le tuyau, YouTube, dans le tuyau, dans le grand tuyau, peu importe ce qui passe dans le tuyau, du moment que ça passe, du moment qu'il y a du débit, que ce soit de l'excrément ou de l'or, c'est la même chose. Ce qui importe, c'est que ça débite. À partir de ce moment-là, le commentaire est devenu l'espèce d'essence, de carburant qui alimente la société. Quand on fait un commentaire sur son livre ou sur son voyage, immédiatement, on vous requiert, on vous demande un commentaire, un avis sur des choses pour lesquelles vous n'avez strictement aucune ni compétence ni légitimité. Je réponds à votre question. Et comme la légitimité, malheureusement, est devenue un concept qui lui-même est complètement disqualifié, puisque qui pourrait se prétendre légitime de quoi que ce soit, puisque toute légitimité en vaut une autre. À ce moment-là, on se sent libre de dire tout et n'importe quoi. C'est pour ça que moi, parfois, bien entendu, il m'arrive que parfois un mot m'échappe. Parce que comme on me tend un micro comme si j'étais un nourrisson et qu'on me tendait une cuillère de gloubi-boulga que j'avalerais, on me tend un micro, alors moi j'expulse mon ro, et mon ro est un commentaire, et parfois je dis des choses comme ça. Alors cette phrase-là...
Et vous regrettez, alors ? Vous êtes en train de me dire, vous regrettez d'avoir dit cette phrase sur
non,
le paradis
non,
d'enfer ?
Non, justement, cette phrase-là, j'y arrive, excusez-moi d'être si long dans mes approches, mais j'y arrive... J'arrive à cette phrase, la France est un paradis où les gens se croient en enfer, peuplé de gens qui se croient en enfer. Mmh. C'est une phrase qui a été beaucoup reprise et qui m'a été beaucoup reprochée. Mais évidemment que cette phrase, ça me semblait tellement évident qu'elle s'accompagna de précautions d'usage que je me suis épargné de les dire. Évidemment que j'ai conscience que toute une partie de notre société vit dans des conditions très difficiles, avec des fins de mois qui parfois commencent au début du mois, avec des conditions qui sont dramatiques. Bien entendu que je ne suis pas un cœur sec, ni un esprit comme ça complètement éthéré qui vit dans une tour d'ivoire, bien sûr. Mais vous vous rendez compte, on en est à devoir...
S'excuser d'avoir dit quelque chose.
Comment ? Oui, enfin non, mais même on en est à devoir camper ces évidences-là. Bien entendu que je ne suis pas moins généreux qu'un autre, je ne suis pas un salaud. Seulement, j'ai beaucoup circulé au cours de ces dernières années autour du monde et je constate que d'abord, nous vivons dans un climat tempéré, que nous n'avons pas la malaria... Que nous n'avons pas de bandes armées armées d'armes de guerre, enfin quoi que, oui. Mais nous n'avons pas de bandes armées d'armes de guerre qui coupent les routes, que nous pouvons jouir d'un environnement, d'un pays, d'une disposition géographique superbe qui en plus est balisée, est aménagée et balisée, qui nous offre de tout voir, que pour 80 ou 50 euros par an, un étudiant peut acheter une carte qui lui offrira l'accès à tous les musées de France qui lui permettront de voir, de jouir, de vivre la jouvence de la contemplation d'un tableau ou d'un spectacle, que le livre de poche nous permet d'avoir à disposition pour un paquet de cigarettes toute la littérature mondiale. Enfin, c'est fantastique. Et que quand vous tombez dans la rue, on vous ramassera et on vous soignera. Ça m'est arrivé, moi. Je n'aurais jamais dû être soigné. Parce que j'étais sous sur une gouttière et je suis tombé. Et donc, je n'avais strictement aucune légitimité à ce que l'État m'accordât la moindre considération. Et pourtant, il l'a fait.
On le remercie. Eh bien,
c'est pour ça que je dis que nous sommes dans un paradis. Et vous entendez des gens vivre, mais comme s'ils étaient à Kobané dans le Rojava kurde, ou bien comme s'ils étaient à Kaboul, en Afghanistan. C'est absolument ahurissant, la disproportion entre cette énergie que mettent certains d'entre nous, bien entendu, il faut le distinguer, à montrer l'enfer dans lequel ils vivent et des conditions que, par ailleurs, le monde entier nous envie, puisque le monde entier y vient. Mmh.
Bien. Je rappelle qu'on garde un petit quart d'heure d'échange avec Sylvain Tesson tout à l'heure avec la salle. Il y aura peut-être des questions à ce sujet. Je voudrais revenir au livre, Sylvain Tesson, et c'est pas la période des regrets par rapport à cette phrase, mais aussi par rapport à ce que vous avez vécu avant. Il y a une phrase qui m'a interpellé par rapport à ce qu'on est tous, nous, aujourd'hui, vous me rappelez, on est tous des êtres humains, on voyage tous. Vous dites, j'ai beaucoup circulé, j'ai été regardé, j'en savais rien. Et une très belle phrase, on met longtemps à voir ce que l'on regarde. Est-ce que c'est pas ça la plus belle leçon de votre passage avec Munier et ce froid qui vous a accompagné et cette recherche de la panthère, est-ce que vous n'avez pas appris à mieux regarder les choses?
Oui, bien sûr. J'ai été très négligent avec l'environnement que je traversais. Munier m'a appris à regarder avec minutie le monde, en partant du principe qu'il y avait beaucoup plus de choses qui se passaient dans un environnement que je ne le croyais, mais que pour ça, il n'y avait pas de miracle, il fallait attendre, il fallait offrir sa patience à la rareté des bêtes. Alors, je l'ai fait, ça demande un effort, mais alors, la récompense est superbe. C'est que quel que soit l'environnement dans lequel on se met, le bord d'une rivière en Lorraine, ou bien un massif dans les Vosges, ou un plateau du Tibet, il se passe un roman dont on n'avait même pas l'idée. Il y a des artistes qui en ont eu l'intuition. Par exemple, j'en veux pour preuve la petite gravure que Jérôme Bosch avait dessinée en montrant des oreilles plantées dans une prairie et des yeux dissimulés dans les branches des arbres, et il avait intitulé sa gravure « Les bois ont des oreilles, la prairie a des yeux ». Il avait l'intuition, les artistes ont l'intuition que le monde chatoie de présences que vous ne connaissez pas. Alors ça, évidemment, pour moi, ça a été une grande découverte, mais je dois dire, à ma décharge, bien que je ne sois pas en train de faire ma propre accusation, que à cause de la géographie, de mes études de géographie, j'avais un goût profond pour la vision synoptique des choses, c'est-à-dire la vision paysagère. Je crois que chez les êtres humains, chez nous, d'ailleurs tout le monde peut se poser la question, est-ce que nous sommes plutôt des hommes et des gens, des hommes ou des femmes du détail, ou des hommes et des femmes du panorama? Est-ce que nous sommes plutôt attirés par la synthèse, par l'explication synthétique des choses, ou par l'analyse partielle? Alors, les gens qui sont portés vers le détail, ce sont des gens comme André Breton, ou le philosophe allemand Ernst Jünger, qui collectionne des petits objets, des insectes, des montres, les petits mécanismes. Ils vont chercher dans les paysages, dans les scènes qu'ils voient, et dans les êtres humains aussi. Ils vont chercher les facettes, la complexité, la minutie, la dissection. En général, ça donne des entomologistes ou des psychanalystes. c'est la même chose, quoi. Les gens qui regardent avec leur petit scalpel. Et ça donne des Meuniers, c'est-à-dire des naturalistes animaliers qui se mettent devant un paysage du Tibet qui est immense et qui essaient de détecter dans les interstices de la géographie et de la géomorphologie, qui essaient de détecter une présence vivante. Et puis il y a ceux qui ont des visions synoptiques, comme les peintres, quoi, et qui regardent comme des peintres, qui regardent plutôt les nuances du ciel, les grands mouvements du relief. Alors c'est plutôt la vision large, la vision télescopique. Et à ce moment-là, moi, c'était plutôt la mienne. Moi, j'aimais les grands panoramas. Alors l'idéal est d'avoir la vision hugelienne. Mais enfin, tout le monde n'est pas Victor Hugo, c'est quand même compliqué. Victor Hugo, c'est-à-dire la vision qui passe en permanence de l'anecdotique à l'universel et qui lui fait dire des phrases comme « Qui pourrait prétendre que le parfum des aubépines est indifférent aux constellations ?» C'est-à-dire le tout est davantage qu'un ensemble de parties, mais dans une partie du tout, il y a une écriture qui nous ramène au tout. C'est une pensée taoïste, c'est une pensée hugelienne, et c'est la pensée qui fait la navette entre la vision synoptique et la vision entomologique.
Est-ce que justement, cette expérience, ça ne vous emmène pas sur une forme de sagesse? Est-ce que c'est un gros mot de parler de sagesse? Est-ce que par rapport à votre passion aussi pour le grec ancien, est-ce que vous vous dites, ben oui, je suis peut-être en train de découvrir quelque chose que je n'avais pas encore touché?
Oui, ben alors là, franchement, pardon, mais je vais vous répondre un peu brutalement.
Allez-y, on y va, c'est pour
Dieu
ça.
Dieu m'en préserve. Ah, parce que c'est pas parce qu'un jour vous allez au Tibet et que vous asseyez sur un rocher, que vous voyez une panthère et que tout à coup vous serrez la main au Dalai Lama que vous devenez sage. Non, c'est pas en s'asseyant au pied d'un arbre et en fermant les yeux en buvant un thé vert. Ça c'est l'idée qu'on devient sage. En pratiquant...
Il y a plein de gens qui vendent ça en une semaine. Hein.
Mais c'est ça. L'idée qu'on devient sage en pratiquant toute cette espèce de scénographie et cette kermesse de la sagesse scénographiée, c'est une imposture absolue.
Bon, il y a un marché qui vient de s'écrouler.
Non, là... Mais non, parce que qu'est-ce que c'est que la sagesse? Qu'est-ce que c'est que la sagesse? La sagesse, c'est de considérer qu'on est là où on se doit d'être. C'est cette idée de tout à coup de se dire que le chemin, d'une certaine manière, l'errance peut s'arrêter, la trépidation peut s'arrêter. C'est ce que dit un jour Karen Blixen dans la ferme africaine devant le Ngong où elle était installée. J'étais bien et je me devais d'être là où j'étais là où je me devais d'être. Ça, c'est une phrase sage. J'étais là où je me devais d'être. Et ce n'est pas parce qu'à un moment, vous sentez un saisissement, un tressaillement intérieur, parce que vous attendez depuis 35 heures par moins 20 degrés dans une grotte l'apparition d'une bête et qu'elle apparaît. Certes, vous vous dites que vous êtes bien là où vous êtes, mais ce n'est pas ça qui vous rend sage, hélas, non.
Alors j'étais évidemment provocateur. Est-ce que vous ne nous avez pas annoncé cet ouvrage, je le répète, qui est salué vraiment par le public, par la critique, j'ai oublié de le dire, mais tout le monde le sait ici, hein, il était effectivement reconnu par un prix. Est-ce que vous n'avez pas déjà annoncé ce livre en étant dans les forêts de Sibérie et surtout avec les chemins noirs? Est-ce que vous ne nous avez pas déjà envoyé ce message de dire, bah, écoutez, on va prendre le temps, on va regarder et on va jouir, puisque c'est votre mot, la jouissance, de la contemplation?
Oui, mais c'est ce que je tentais.
Tout ça est un chemin.
Oui, c'est ce que je tentais d'exprimer au début de notre conversation. Je ne crois pas qu'il y ait d'antinomie entre la marche à pied sur un chemin et l'affût au Tibet. Dans les deux cas, il y a une tentative de concilier l'intensité du principe de vie, quoi, l'appétit vital et la déclaration de paix. Faites avec le temps qui passe, voilà. Et puis dans les deux cas, il y a une grande vénération pour le réel. Ça, c'est quelque chose qui finalement peut-être relie le plus les expériences de la marche à pied et de l'affût ou de l'escalade ou de la vie dans une cabane en Sibérie. C'est l'allégeance au réel. Voilà. Moi, je suis très surpris de voir qu'au fur et à mesure que le réel se dégrade autour de nous. Et on le sait, c'est pas la peine d'écouter une petite fille de 16 ans qui nous le dit pour le savoir. Non, mais c'est très bien d'écouter, et puis puisse-t-elle le dire, et puis peut-être convaincre des âmes qui en doutent encore. Mais ça n'est pas parce que... je remarque qu'au fur et à mesure que le réel se dégrade, les discours messianiques qui nous proposent des lendemains enchanteurs se développent. Dans tous les champs, dans le champ politique, religieux et technique. dans le champ politique, on connaît ça par cœur. C'est une vieille histoire. L'homme politique, c'est celui qui veut le pouvoir en faisant des promesses. Alors la promesse, c'est « demain sera mieux qu'aujourd'hui », en gros. C'est ça, un programme politique. « Demain sera mieux qu'aujourd'hui ». Voilà. Malheureusement, en politique, l'intention ne fait pas une légitimité. Et c'est ce qui fait la légitimité, c'est le bilan. Le bilan, c'est pas l'intention. Alors, ça, c'est une chimère, que d'asseoir une légitimité sur une intention. La deuxième promesse, c'est la promesse religieuse. C'est la même, finalement. C'est la même. C'est un messianisme qui n'est pas politique, mais qui est spirituel. La vie demain, la vie éternelle sera mieux que cet intervalle d'existence matérielle que vous vivez et qui n'est qu'une vallée de larmes. Alors ça, c'est la promesse messianique. Et puis, il y a la troisième promesse qui est finalement la plus grave et la plus dangereuse, qui est la promesse technique. Elle est récente, celle-là. C'est le salut de l'humanité par les gadgets au silicium. C'est le salut de l'humanité par la nouvelle technologie. C'est une religion avec son dogme, avec ses prêtres, avec son Vatican, qui est la Silicon Valley, avec ses burettes et ses symboles, comme la pomme croquée. Et ça, c'est un messianisme qui est très dangereux. Et dans les trois cas, technique, religieux et politique, les trois formes de promesses nous disent « Bon, écoutez, le monde se dégrade, mais c'est pas très grave, parce que demain ira mieux. Et l'essentiel est de lancer nos illusions aux trousses de nos espérances. » Eh bien, moi je réponds à votre question. Dans le cas de la panthère, de l'affût à la panthère ou de la traversée de la France sur des chemins noirs, c'est l'exact rebours de cette croyance, de ces espérances chimériques, de cette déclaration de guerre au réel. C'est l'exact tentative de dire non, moi je n'attends rien de demain parce que tout se passe ici et maintenant, qu'on soit sur un chemin noir ou dans un plateau éclatant de lumière.
Alors, tout se passe aujourd'hui et maintenant, et vous avez effectivement dans vos livres, quand on adore évidemment ces paysages que vous décrivez, que ce soit dans les chemins noirs ou là au Tibet, il n'y a pas de message direct de protection de l'environnement. Il y a un message anti-chasseur qu'on vous connaît régulièrement, on sait que vous êtes déjà bien expliqué avec certains. Le message aujourd'hui, ce que vous venez de la citer, cette jeune, on va dire, porte-parole de la protection de l'environnement, vous vous sentez un rôle par rapport à ça, de dire justement qu'il faut réagir à cette dégradation, ou c'est pas le rôle de l'auteur, de l'écrivain que vous êtes, et que l'œuvre suffit à elle-même?
C'est peut-être le rôle de certains écrivains, mais moi je ne le sens, mais absolument pas. Je prie le ciel pour que jamais on pense qu'il puisse y avoir le moindre message. Je ne crois pas du tout être l'homme d'un catéchisme, d'un dogme, d'un manifeste. Je me pense profondément, même pas apolitique, mais anti-politique. C'est-à-dire que je crois que pour prétendre imposer une idée, un programme, un dogme, un manifeste, il faut avoir une légitimité, une qualification absolument incroyable. Et moi, je ne sais pas. Je voudrais, pour répondre à votre question, vous réciter un poème d'un type qui a été malheureusement un peu oublié, qui était chargé, pour répondre à votre question sur la politique et le message, qui était chargé de la lecture des manuscrits chez Gallimard. Il s'appelait Georges Perros. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous connaissent Georges Perros. Il a donné trois textes qui s'appellent « Les papiers collés » chez Gallimard et un petit livre de poèmes qui s'appelle « Une vie ordinaire ». Et un jour, il répond à la question sur le message politique. « Alors, mais votre message, quel est votre message ?» Moi, mon message est surtout de ne pas avoir de message. Mon message est de dire les choses. Mais Perros dit ça beaucoup mieux. Il dit « Un jeune homme de gauche me demande pourquoi je ne fais pas partie de son parti Nada ». Un jeune homme de droite me demande pourquoi je ne fais pas partie de son parti Gaga. Un jeune homme du centre me demande pourquoi je ne fais pas partie de son parti sans ventre. Un jeune apolitique me demande pourquoi je fais de la politique tout en n'en faisant pas. On me demande ainsi beaucoup, beaucoup de choses, et je rentre chez moi, farci d'effets sans cause, et n'ayant dans le cœur, et n'ayant dans l'esprit, et n'ayant dans l'âme, qu'un grand cri pour personne. Voilà Georges Perrault, c'est la politique.
C'est beau, ça ?
C'est beau.
Un grand cri pour personne, c'est dit.
Oui, un grand cri pour personne. Un grand cri, bien sûr, un grand cri de poète, c'était le cri de Georges Perrault, mais qui n'est destiné à personne. Mais mon Dieu, quelle outrecuidance pour dire à une société humaine dont vous pensez qu'elle va vous accorder un suffrage qui sera de plus en plus grand, et pour lui dire, voilà, moi, c'est ça que je propose, parce que je sais que c'est ça qui sera bon pour le salut de l'humanité. Non, non, commençons par essayer de bien mener notre barque personnelle, et la mienne m'a conduit vers ses affûts. Moi, c'est ça que je me contente de raconter.
Allez, avant qu'on termine et qu'on continue surtout avec le public, j'avais une dernière question. Vous avez parlé de la politique et tout à l'heure de la religion. Là, j'ai envie de dire quand même, dans ce livre, quand vous voyez la panthère, Tesson, c'est Bernadette. Vous êtes complètement sous l'effet de l'apparition. Tout à l'heure, vous avez parlé de vous agenouiller, vous en parlez dans le livre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous ressentez physiquement et pourquoi vous le traduisez comme ça? Alors, je ne parle même pas, et on peut en parler juste après, deux questions dans une, c'est jamais simple, mais vous voyez même des visages de gens très aimés dans cette panthère. Première réflexion, déjà, c'est quoi? C'était une victoire de la voir?
Non, mais alors, c'était une apparition. Oui. C'était une apparition, et le mot n'est pas usurpé, n'est pas abusif. C'est un mot qui appartient au vocabulaire religieux, mais ça n'est pas une vue de l'esprit ou une acrobatie sémantique de recourir au vocabulaire religieux. Parce que moi, je pensais qu'elle avait plus ou moins disparu. J'étais persuadé que je ne la verrais jamais. Je pensais que Munier bluffait un peu en me disant qu'il en avait vu beaucoup. Je n'avais pas vu qu'elle venait, et tout à coup, elle était là. Alors, si ça ne s'appelle pas une apparition, je veux bien être transformé en lièvre laineux.
Attention à ce que vous dites.
Hein. C'était une apparition. Alors oui, vous amusez à me comparer à Bernadette Soubirou dans la grotte de Lourdes.
C'est vous qui le faites.
Comment?
C'est vous qui le faites. Enfin,
oui, je dois quand même reconnaître une chose et le dire, parce qu'il n'y a pas de raison pour que nous ne militions pas. Tenez, faisons un message, tous les deux, d'ailleurs, parce que ça nous concerne. Non, je n'étais pas Bernadette parce que la panthère n'était pas une vierge. et je voudrais d'ailleurs dire quelque chose, parce que nous aussi, les hommes, nous sommes capables d'avoir parfois des tourments. La panthère, parfois, est un homme. Oui. Alors, c'est d'ailleurs tout à fait injuste, parce que moi, je veux bien qu'il y ait le combat féministe de féminisation des mots, je trouve ça très bien, tout à fait normal, mais moi, je me sens très blessé, car, au fond, j'ai été, pendant plusieurs semaines, la sentinelle d'une panthère, alors que parfois la panthère était à mal et que moi-même, je ne suis pas une sentinelle, enfin, je devrais être un sentinelle. D'autant qu'après, on me dit que je suis une plume. Alors tout ça m'amène à penser que finalement, le combat pour la féminisation des noms devrait finir par nous amener, nous autres, à un combat pour la masculinisation de mots qui sont féminins. Enfin, je referme cette parenthèse. Mais oui, mais...
C'est une belle esquive, on n'a pas la réponse. Hein,
oui, c'est ça l'escapisme.
Ah oui, ça, on a bien compris la démonstration.
Sur la religion, ça n'est pas une idée que j'ai eue soudain quand j'ai vu la panthère. Je ne me suis pas dit que j'allais convoquer d'autres souvenirs et d'autres images. C'était un fait, c'est-à-dire que j'ai vu la bête et tout d'un coup, le visage de femme que j'ai profondément aimée dans ma vie, ma mère qui est morte, oui, et une femme qui a été la femme de ma vie mais qui ne l'est plus parce que elle m'a quitté et je pense qu'elle a bien fait. J'ai vu une superposition d'images. Et ça, c'est religieux. C'est religieux. C'est la définition que donne André Breton du surréalisme en 1924, dans son manifeste, où il dit que le surréalisme, c'est la surimposition de deux situations ou de deux images qui sont très éloignées les unes des autres. Mais c'est aussi la religion. C'est aussi la religion. C'est ce que Pascal pressent dans les pensées en disant cette apostrophe superbe. Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé. C'est l'idée que nous circulons beaucoup, nous échinons à beaucoup sillonner le monde à la recherche de choses qui sont déjà en nous. C'est une idée très banale que Pascal dit superbement, que saint Augustin dit dans sa 10e confession, « Ô beauté, je t'ai cherché hors de moi-même alors que tu te tenais au-dedans de moi-même ». Enfin, c'est cette idée dont nous avons tous l'intuition, mais qui parfois est très bien formulée et que parfois nous saisissons, que nous contenons à l'intérieur de nous-mêmes des souvenirs éteints ou des impressions enfouies ou des images ou des rappels qui se sont fossilisés, qui sont morts. Et un jour, il suffit d'une rencontre, d'une électrocution, d'un moment. Chez les uns, ça peut être une musique. Chez les autres, c'est une panthère. Chez les troisièmes, c'est une madeleine. Et soudain, il apparaît quelque chose qui se réveille. C'est une flamme qui se réveille. Enfin, tout ça est finalement la mémoire proustienne qui attend un vecteur, qui attend un agent de déclenchement, qui attend une étincelle pour qu'un feu intérieur, dans un baril intérieur, s'allume. Eh bien, moi, ça m'est arrivé avec la panthère. Et puis, si vous permettez, la deuxième considération religieuse que m'inspirait la panthère, c'est que nous nous trouvions, au moment où je l'ai vue, dans des terres où le Tao de Lao Tse, le Tao Te King, est arrivé dans le nord du Tibet. Il n'a pas eu beaucoup de succès parce que les Tibétains étaient plutôt sensibles et réceptifs au bouddhisme, qui lui-même venait très péniblement de la plaine indo-gangétique et qui a dû passer l'Himalaya pour arriver au Xe siècle au Tibet. Mais le Tao a quand même essaimé dans la bordure septentrionale du Tibet. Et le Tao, la pensée taoïste, qui est une pensée intellectuelle plus qu'une religion, c'est une pensée sur l'unité mystique, qui dit la chose que tous les mystiques, de quelques obédiences qu'ils soient, disent. Il y a eu une unicité vitale et primordiale, et puis il y a eu des éclats. Il y a eu ensuite une espèce de diffraction, de ramification, de sophistication, de complexification. Ça s'appelle l'histoire de la vie. Et les physiciens, les scientifiques, les paléontologues, les astrophysiciens et les biologiques disent la même chose. Il y a eu tout d'un coup une écriture chimique avec des acides aminés. Et puis il y a eu tout d'un coup cette écriture chimique est devenue une écriture biologique, des cellules. Et puis après, il y a eu deux cellules et puis ça a été le début des problèmes, quoi. Il est évident qu'en termes d'amour, quand vous êtes dans la sissiparité et que vous avez besoin simplement de vous séparer en deux pour pouvoir vous propager, ben, vous n'avez pas de problème de couple. Alors c'est évident que l'amibe et la cellule primordiale et unicellulaire est beaucoup plus calme sur le plan des sentiments que nous autres êtres humains. Mais tout ça pour vous dire que dans le premier chapitre du Tao, il y a ce très beau vers. Sans nom, le Tao est la mère de tout et l'origine de l'univers. Avec un nom, il est la mère de tous les êtres. C'est donc l'intuition et la prescience qu'il y avait cette unité, et puis que soudain il y a eu le miracle du vivant il y a 4,5 ou 6 milliards d'années, et puis il y a eu tout ce que nous sommes aujourd'hui. Et cette idée-là, forcément, vous l'intégrez, vous l'absorbez, vous la ruminez quand vous êtes à l'affût, parce que vous vous dites, quand vous voyez un yak, une panthère, un aigle ou un papillon ou un lièvre, vous vous dites tout ça procède de quelque chose qui fut un jour le même. Et il y a des traditions poétiques et spirituelles qui s'attachent à dire cette chose-là. Et le mystique, c'est celui qui rassemble les débris du vivant, tout ce chatoiement, tout ce scintillement tellement sophistiqué, tellement compliqué, et qui essaie de remonter à la source. Alors que le zoologue, c'est celui qui fait le contraire. Lui, le zoologue, veut voir les fragments, il veut voir les manifestations du vivant, il veut voir les propriétés de l'unique. Il ne veut pas tellement s'intéresser à l'unicité biochimique. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de voir toute cette efflorescence de formes vivantes. Eh bien, nous, à l'affût, notre œil essayait de regarder les effets, essayait de regarder les facettes, essayait de regarder les éclats, les débris, les miettes, c'est-à-dire les bêtes, et notre esprit allait vers les débuts, c'est-à-dire vers l'unicité. Et c'est pour ça que c'est un exercice qui est merveilleux, parce que vous êtes à la corde, sur l'arête de ces deux mouvements, un mouvement qui remonte et un mouvement qui descend. C'est tout ce que je vous dis là, laborieusement, a été exprimé superbement par Novalis, l'allemand romantique, allemand un peu avant l'époque de Hölderlin. Il a très peu écrit, mais il y a un très bel aphorisme. Nous cherchons partout l'absolu et nous ne trouvons que des choses. Eh bien voilà, on pense à l'absolu, mais devant nos yeux, il y a des choses, des bêtes qui circulent.
Je crois que c'est la très belle conclusion de cette intervention. Merci beaucoup, Sylvain Tesson, pour cet échange.